Bonsoir, vous êtes bien à l'écoute des informations du samedi soir sur Radio Zinzine et Radio BAM en direct des locaux de BAM à Marseille. Donc nous sommes le samedi 9 janvier 2016, hein, bonne année.
Bonne année.
Donc au programme de ce soir, on va commencer par les éphémérides avec Gaël et on enchaînera avec l'agenda avec toujours Gaël et Mathéo. Au niveau du local, on parlera des plages hein, et de la reconquête du domaine public maritime par qui et pour qui, avec Damien. On aura quelques brèves en local de Mathéo et ensuite on passera au sujet Alteo et on terminera sur la SNCM. Au niveau national, on parlera de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On parlera aussi de la Ligue des droits de l'homme qui attaque certains points de l'état d'urgence. On continuera d'ailleurs avec Damien qui va nous parler des articles de Ciné Hebdo actuellement. Et on terminera avec les migrants qui ne sont plus place de la République. Ah, et au niveau international, on vous parlera d'Amérique latine, d'armement et peut-être de classification périodique si on a le temps parce que le programme est chargé. Ah, on continue donc avec les éphémérides avec Gaël.
Donc voilà, le 9 janvier 2015, vous vous en rappelez, c'était l'année passée. Hamedi Coulibaly tue plusieurs personnes et prend plus de 10 autres en otage dans une supérette cachère de la chaîne Hyper Cachère, porte de Vincennes. Il sera tué par les forces de l'ordre pendant la sortie. 4 personnes sont tuées en tout et 4 autres seront gravement blessées par le preneur d'otages, dont 3 policiers. Mais il y a eu aussi d'autres 9 janvier dans l'histoire. Et en 1349, donc au 14e siècle, 9 janvier 1349, toute la population juive de Bâle est accusée d'être responsable de la propagation de la peste et est massacrée et incinérée. 600 personnes auraient été tuées. La population juive a été accusée d'empoisonnement depuis. Un autre 9 janvier dans l'histoire, en 1431, débute le procès de Jeanne d'Arc. Voilà pour les éphémérides.
Alors on continue tout de suite avec l'agenda. Déjà, je vous donne rendez-vous sur Radio Galère pour l'émission Presse Libérée avec le CQFD et le RAVI de mensuel de critique sociale à Marseille. C'est à 11h30 et ensuite cette émission est rediffusée sur Radio Zinzine ainsi que sur la radio de nos amis parisiens sur FPP. En sachant que le numéro de CQFD de ce mois-ci parle du grand bazar de l'armement, donc la politique française d'armement, une réussite nationale qui est très bien détaillée, dont Damien va nous parler tout à l'heure au cours de ses informations. Quant au RAVI, il nous parle encore une fois du FN, hein, je crois. Pardon, il me semblait avoir fait la différence, mais il y avait une transition. C'est peut-être un acte manqué réussi, je ne sais pas. Qui parle, donc, je disais, d'Aubagne, le nouveau maire des Républicains qui liquide un peu tous les acquis sociaux de l'ancien maire PC. Et il nous parle de tout un tas de choses. Très bon article sur Sophie Tapie, aussi sur la fille de Tapie, que je vous conseille de lire dans le RAVI. La suite de l'agenda. Alors ensuite, mardi soir, il y a l'Assemblée des migrants, toujours collectif soutien Migrants 13 au 180 rue Horace Bertin. Et il y a un concert à l'asile 404 c'est demain d'ailleurs, c'est demain soir, dimanche. Ensuite...
Et juste avant mardi, il y a lundi. Et lundi, le 11 janvier, il y a la prochaine Assemblée de la Plaine à partir de 18h au Molotov, place Paul Cézanne, donc c'est en haut de la rue d'Aubagne. Et vous vous en rappelez, on en a discuté dans ces informations. On va globalement discuter du quartier, de la lutte autour de la plaine qui est en train de se dérouler. Pour rappel, il y a eu les espèces de concertations en fumage qui se sont terminées par un rendu le 17 décembre dernier. Les gens ont largement contesté ces concertations, soit dedans, soit en dehors. Et il s'est passé plein de choses importantes depuis, notamment l'installation de tables à la plaine qui perdurent, qui n'ont toujours pas été détruites malgré ce qu'en pense la municipalité. Et donc là, on va arriver à une nouvelle phase qu'il faudra débattre de d'autres formes de mobilisation. Donc la prochaine assemblée de la plaine se tiendra le lundi à 18h au Molotov.
Et justement, en guise de compte-rendu de la concertation qui s'est tenue en fin d'année, vous trouverez un article aussi toujours dans le Ravi qui relate cette concertation.
Alors, on reprend l'agenda à mercredi, n'est-ce pas ? Mercredi, on se donne aussi rendez-vous sur Radio Galère. Hein. Vous pouvez parfois écouter Radio Galère et pas toujours Radio Zinzine, ni BAM Radio, on a le droit. À 16h30, dans le cadre de l'émission Libre Débat, c'est spécial sur les sourds et sourdes en lutte contre la médicalisation de leur existence. Il faut savoir que depuis le 19e siècle, les personnes sourdes se battent pour leur culture et qu'elles soient reconnues dans les lieux publics et dans les interactions avec les autres personnes dites entendantes, refusant d'être réparées par le son et les appareils. Voilà, donc je vous conseille d'écouter cette émission, et si vous ne pouvez pas l'écouter en direct, elle est toujours podcastable. Mercredi soir, Darla Mifa, rendez-vous avec Acrimed, donc ce site internet, association de critiques et d'observatoires de médias. Voilà. Avec Pierre Rimbert du Monde Diplomatique qui viendra nous proposer un modèle de financement de la presse dite alternative et la presse en général. Bon, voilà, faut aller voir ce qu'il en a à en dire parce que je connais pas tous les détails. Jeudi à 14h au local solidaire 29 boulevard Longchamp, c'est la coordination des intermittents et précaires de Marseille et Sud Emploi PACA qui viennent nous parler de la situation des intérimaires. Et de la situation à Pôle emploi en général, et notamment des nouvelles politiques de contrôle. Donc je vous conseille d'y aller, notamment pour les gens qui sont à Pôle emploi, on apprend des choses très intéressantes. Et enfin, vendredi 15 à 20h au cinéma Les Variétés, Les Gracieuses, un film documentaire de Fatima Sissani. Et Fatima, on la connaît bien puisqu'elle a fait beaucoup d'émissions pendant des années sur Radio Zinzine et elle vient régulièrement nous rendre visite et elle viendra présenter son film et le synopsis du film. C'est donc, elle a suivi 6 jeunes femmes proches de la trentaine. Elles sont nées dans le même immeuble dans la cité des Mordecs à Champigny-sur-Marne, dans la banlieue ouest. Elles ne se sont pas quittées depuis l'enfance, une relation fusionnelle. Elle raconte joyeuse et à toute vitesse cette amitié presque amoureuse, aussi l'identité, les rapports de classe, la relégation spatiale et sociale sont traités. Et il y aura une discussion débat avec Fatima ensuite.
Toujours vendredi de la même soirée. Il y a à Casa Consola à 19h une soirée d'information et d'échange autour de Reclaim the Field. Reclaim the Field, c'est un réseau de paysans, paysannes avec ou sans terre, de jardiniers, jardinières urbains, urbaines et de ruraux insoumis. Ça sera une discussion, un apéro paysan avec des lectures en compagnie de la compagnie notamment KTA, et c'est Kta. À Casa Consola.
Ça se prononce KTA, non, c'est parce que les voilà. Gens de la compagnie le prononcent comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, ils viendront jouer à la fête de Radio Zinzine qui a lieu le 4 juillet, c'est dans très longtemps, mais on sait déjà qu'ils vont venir. Voilà, c'est une petite parenthèse. Voilà.
Et ça continue parce qu'en fait, c'est plusieurs journées. Il y aura aussi le samedi après-midi des rencontres ouvertes, dont le thème est « Comment l'agriculture urbaine paysanne est-elle une source d'autonomie ? Espace d'agitation, lieu de rencontre, un moyen de lutte ?» Et le dimanche après-midi, il y aura également des rencontres ouvertes intitulées « Briser les frontières nord-sud, quelle solidarité ville-campagne envisagée ?»
Et d'ailleurs, pour la semaine prochaine, on pourrait peut-être essayer de voir s'il y a quelqu'un de Reclaim the Field qui ne voudrait pas venir aux informations, en sachant qu'ils seront aux informations le vendredi à Radio Galère, donc peut-être si ça leur dit de faire les deux, pourquoi pas.
Et dernière date dans l'agenda pour accrocher avec l'actualité brûlante, il y aura une soirée, mais c'est le 21 janvier à Darla Mifa, pour relancer le comité de soutien à la ZAD Notre-Dame-des-Landes à Marseille et ses alentours. Donc c'est à partir de 19h30, il y aura une présentation rapidement de la ZAD Notre-Dame-des-Landes à travers 2 documentaires, puis un temps de discussion à partir de 21h. Voilà, mais on reviendra là-dessus dans les prochaines informations.
Voilà, bah on va vous laisser sur une petite pause musicale avant de revenir avec les informations locales.
good old days of peace and quiet. Peace and quiet. Peace and quiet. Peace and
Et nous reprenons donc pour les informations locales avec Mathéo qui va nous faire quelques brèves.
Oui, quelques brèves rapides. Sachant qu'un homme est mort ce jeudi matin, un SDF en face de la mairie du 1er et 7e arrondissement de Marseille, c'est-à-dire à 200 mètres d'ici. Voilà, donc pour dire qu'on peut encore mourir dans la rue, même sous l'état d'urgence, et que c'est important de le rappeler des fois, et qu'il y a eu un hommage de plusieurs associations qui a été fait avec un petit hôtel. Ensuite, oui, alors il y a eu des coups de feu ont été entendus ce jeudi midi aux abords du stade Vélodrome à Marseille. Et un gros dispositif de sécurité à l'extérieur et à l'intérieur du stade a été déployé. Alors ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas une manif, ça n'a absolument rien à voir avec l'état d'urgence. C'est simplement un exercice de maintien de l'ordre pour prévenir l'Euro 2016, voilà, qui va se tenir à Marseille. Que de bonnes nouvelles. Ensuite, on peut aussi parler du fait que l'élection de Jean-Claude Gaudin à la métropole d'Aix-Marseille a été annulée, tout simplement, suite à des recours juridiques de l'opposition et aussi des petites communes qui n'ont pas envie de se faire bouffer par cette grande métropole, qui pour l'instant est suspendue, hein, ce projet est suspendu. Et voilà, du coup l'élection aussi de Gaudin a été suspendue. C'était pour la petite histoire.
Ouais, grand foutoir à ce niveau-là. Hein,
c'est un gros bazar.
Non seulement l'élection de Gaudin est annulée, mais la nouvelle métropole existe. Mais pour l'instant, les commissions qui la composent ne peuvent absolument rien faire. On est dans le blocage total et complet de la nouvelle métropole qui vient juste de naître.
Eh bien, voilà pour ces brèves. On va donc continuer avec les plages et le domaine public maritime.
Oui, alors sur le littoral marseillais, là, ces derniers temps, ça bouge un petit peu. Donc plusieurs choses à noter du côté de la Pointe Rouge et même un petit peu plus loin du côté de la plage de chez Dédé. Depuis la fin du mois de novembre, on commence à casser les cabanons qui avaient été construits sans permis. Le long du littoral. Donc il y a une barge avec une grue qui est en train de faire une nouvelle digue à ce niveau-là pour renforcer une falaise qui est en train de s'effondrer, et on en profite pour donc détruire ces cabanons sur le littoral. Dans le même temps, le 31 décembre, deux établissements des Catalans ont fermé leurs portes. Il s'agit du Calypso, pour ceux qui la connaissent, et de la Pizzeria des Catalans, qui étaient donc les deux établissements qui étaient vraiment sur la plage des Catalans. Ils ont fermé, contraints et forcés, donc par la mairie, ou par l'État plus précisément, qui récupère la gestion des plages et qui donc récupère la bande de littoral, les fameux 80 mètres qui sont protégés depuis près de 30 ans par la loi littoral. Et c'est aujourd'hui que l'État a décidé d'accélérer sur ce dossier et de reprendre les choses en main. Donc les établissements ont fermé aux Catalans, on refait les plages, on détruit les cabanons. Tout ça dans quelle logique? La logique est donc la réappropriation du littoral par l'État, et dans un même temps, une passation de pouvoir, c'est-à-dire que l'État est en train de retransmettre via des conventions la gestion des plages directement à la ville de Marseille. Ça va se faire progressivement, mais les 21 plages de Marseille, donc 40 km de plages, vont repasser sous le giron de la ville très prochainement. C'est déjà le cas aux Catalans, et aux Catalans, la mairie a lancé récemment un appel d'offres qui vise à profiter d'une possibilité qui est laissée par l'État dans le cadre de cette nouvelle convention, possibilité de louer 20% des plages à des prestataires privés. Donc l'appel d'offres qui a été lancé, c'était dans le but d'avoir des propositions, notamment de des grands hôtels type Intercontinental. Malheureusement pour la mairie, ça n'a pas été le cas. L'Intercontinental n'a fait aucune demande. En réalité, il n'y a eu que trois dossiers qui ont été déposés pour cet appel d'offres, dont une a été retoquée. Il s'agit d'une société d'événementiel, donc qui a été retoquée directement. Donc les deux seuls dossiers qui sont pour l'instant étudiés par la mairie sont ceux de la pizzeria des Catalans qui vient d'être détruite et de l'hôtel Richelieu, donc autre grand hôtel. Ça nous fait réfléchir donc sur la volonté de la mairie, sur la façon dont elle va gérer ces espaces qui passent donc dans son giron. Et la volonté est claire, donc privatiser une partie de la plage des Catalans, mais aussi à terme une partie de la plage de la Pointe Rouge. Donc voilà, réappropriation de la bande littorale par le public, certes, mais pour qui ? Est-ce que ça sera vraiment pour les Marseillais ? Ou est-ce que ça sera pour les Marseillais à 80% et à 20% pour des prestataires privés ? Juste un point qui peut amener à réfléchir, la convention qui lie l'État et la mairie sur l'attribution des plages n'est pas gratuite et la mairie doit payer une redevance qui par exemple pour les Catalans s'élève à 14 000 euros et c'est peut-être pour éponger ces frais que la possibilité a été laissée à la mairie de louer une partie des plages à des prestataires privés. On suivra ce dossier sur la longueur.
En tout cas, cette histoire de la plage des Catalans, qui est quand même la plage située vraiment au cœur de Marseille, dans le centre, c'est un peu comme l'histoire de la plaine, en fait. Il y a vraiment cette idée de se réapproprier des espaces par la mairie, mais qui sont des espaces populaires. Parce que pour le coup, la plage, c'est vraiment, il y a tous les gamins l'été qui vont se baigner. Et c'est une plage qui est beaucoup plus près que celle du Prado, par exemple. Et là, on voit clairement qu'ils sont en train de faire une sorte de nettoyage par le bas pour justement monter en gamme aussi au niveau du littoral, quoi.
Exactement. C'est une montée en gamme. Alors, autant sur la plaine, on n'a pas un souvenir du haut de gamme. Autant sur les Catalans, on a déjà cette expérience puisque la plage, historiquement, a été privée en partie pendant longtemps. Et je me souviens, quand j'étais enfant, la plage des Catalans était payante. On descendait, il y avait un guichet à l'entrée et on payait l'entrée.
D'accord, ok.
Et effectivement, c'était une autre gamme, on va dire, une autre gamme de personnes, peut-être une autre classe sociale en tout cas, qui profitait de la plage.
Ouais, on peut noter quand même que les installations qui répondront à l'appel d'offres de la mairie devront être démontables et démontées en dehors de la période estivale, hein, pour laisser le littoral totalement libre pendant le reste de l'année.
Ouais, voilà, c'est typiquement le cas de la pizzeria des Catalans qui vient d'être détruite. Ce qu'on leur propose, c'est pas de reconstruire. Ce qu'on leur propose, c'est de mettre des cabanes temporaires qui ne dureront que le temps de la saison. J'en profite pour glisser juste une chose. Pour, disons, les gens aisés et qui souhaiteraient une tranquillité pour accéder au bord de mer, l'offre existe déjà, puisque juste à côté des Catalans, il y a le Cercle des Nageurs de Marseille, qui est un club privé, cher d'ailleurs, dans lequel on ne peut rentrer que si l'on est parrainé par quelqu'un qui est déjà membre, et qui est donc un lieu de rencontre pour l'élite marseillaise. Donc l'offre existe déjà.
Qui il y a quelques années déversait ses eaux usées sur les pauvres baigneurs des Catalans. En fait, le Cercle des Nageurs marseillais avait cette politique-là. Voilà.
Ouais, on chie sur les pauvres au Cercle des Nageurs de Marseille.
On retrouve d'ailleurs une bonne partie des élus marseillais au Cercle des Nageurs, quel que soit leur parti. Hein. On va continuer maintenant avec l'usine d'alumine de Gardanne. Hein, on avait pronostiqué en décembre un maintien des rejets, non pas de Bourouge, vu que maintenant il n'y a plus de solide, mais que des liquides.
Ouais, c'est transparent maintenant.
Oui. Pour 3 ans, histoire de laisser le dossier au prochain gouvernement. Eh bien, le préfet a signé un arrêté le 28 décembre 2015 prolongeant l'autorisation des rejets pour 6 ans, hein, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, évidemment, le préfet a dit s'être basé sur, pour autoriser cela sur l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, hein, qui est censé être un conseil indépendant. Cependant, et comme le remarque le canard enchaîné comme d'autres, il semblerait que le mardi 3 novembre 2015, suite à une réunion interministérielle réalisée du coup par les différents ministères, le Premier ministre demande au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques de donner un avis favorable au projet d'arrêté préparé par les services du préfet vis-à-vis des rejets d'Alteo. En gros, c'est une entité indépendante qui réagit aux consignes de Matignon. Hein. On peut noter aussi, qui était relevé dans leur avis, que le préfet aurait signé son accord avant...
Avant que ce soit rendu, avant que ce soit publié l'enquête de l'ANSES. Donc l'ANSES, c'est l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Et c'est l'unique enquête qui porte sur la contamination ou pas du milieu. Et alors justement, cette enquête a conclu que effectivement le milieu est contaminé par les effluents qui sortent du pipeline de Alteo. Et donc je pense que effectivement les services préfectoraux ont bien fait de ne pas attendre la publication de cet avis de l'ANSES. Plusieurs points à rajouter là-dessus. Alors, effectivement, la nature des rejets a changé. C'est bien pour ça que l'étude de l'ANSES était extrêmement importante, parce que les rejets, comme on a dit tout à l'heure, c'est plus des boues rouges maintenant, c'est uniquement du liquide qui sort. Donc, effectivement, il est quasiment transparent, ou plutôt, quand on le voit sortir dans l'eau, il est blanc, étant donné la différence de température, etc. Mais, donc maintenant, c'est du liquide qui sort. Et du coup, comme c'est du liquide, contrairement aux boues, il se diffuse beaucoup plus facilement dans le milieu environnant. Et donc l'étude de l'ANSES, c'est la première étude qui porte sur la contamination des nouveaux types de rejets qui sont rejetés depuis le milieu de 2015. Et donc eux ont bien confirmé que les poissons, les oursins et autres espèces sont contaminées par les effluents de Alteo. L'autre chose qu'il faut bien saisir, c'est que ce dossier est pas nouveau, ça fait déjà, même pour nous, ça fait longtemps qu'on le suit, mais ça fait plus de 20 ans que Alteo et Aix-Pechiney savent qu'ils devront arrêter les rejets en mer. Pourquoi ? Parce que depuis 1976, la France est signataire de la Convention de Barcelone. Elle a été rectifiée en 1995, et donc depuis 1995, on sait que tous les pays signataires se sont engagés à ce qu'il n'y ait zéro rejet en mer au 31 décembre 2015.
Alors attention, hein, pendant le débat sur le retrait ou pas de nationalité pour les gens inculpés de terrorisme, on nous a annoncé que la France pouvait signer des traités internationaux sans les ratifier. Hein, donc.
Ouais, mais dans le cas de la Convention de Barcelone, ça a été ratifié. Et donc la France est bien en illégalité depuis le 1er janvier sur ces rejets. Autre point très important, même si les rejets continuent en mer, le point qui me semble aussi préoccupant aujourd'hui, c'est que 99% des rejets solides sont donc gardés maintenant par l'entreprise Alteo et sont plus rejetés en mer, mais il faut bien les foutre quelque part. Et ce quelque part, c'est le site qu'on appelle Mangegary, qui est situé à Bouc-Bel-Air, et c'est donc une décharge à ciel ouvert. Donc les effluents, là, les boues rouges de Pechiney, enfin de Alteo, ne sont plus rejetées en mer, mais elles sont rejetées à ciel ouvert, à Bouc-Bel-Air. Et il y avait un très bon article, il me semble justement dans leur avis aussi l'an dernier, sur ce site, parce que les riverains se plaignent de voir les boues rouges polluer ce site à ciel ouvert, d'autant plus qu'il y a un étang à proximité du site. Donc voilà, l'autorisation qui a été donnée pour 6 ans, n'a rien d'étonnant, parce que ça correspond à peu près à la durée de vie programmée de l'usine d'Alteo. Il faut savoir que Alteo, c'est pas un groupe qui rachète des entreprises pérennes pour les diriger pendant longtemps. Non, c'est un groupe qui rachète des entreprises en fin de vie pour les valoriser à la découpe, c'est-à-dire que dans quelques années, et c'est déjà programmé, le site de Gardanne d'Alteo sera démantelé et sans doute délocalisé ailleurs. Donc en fait, on vient de donner l'autorisation à Alteo de finir cette histoire en déversant jusqu'au bout ses déchets, non seulement en mer, mais aussi à ciel ouvert à Bouc-Bel-Air. Voilà pour Alteo.
On peut noter quand même que le parc national des Calanques, au sein duquel se trouvent les rejets non plus de boue rouge mais liquide, avait donné un avis relativement favorable à la poursuite de ces rejets, mais a prescrit quand même la création d'une instance indépendante à la fois de l'industriel et de l'État, qui aurait un avis scientifique et technique de référence sur ces rejets et qui aurait pour but notamment d'informer le public. Hein. Évidemment, cette instance n'est pas créée aujourd'hui.
On continue sur Marseille, vous avez des choses encore ?
Oui, normalement on continue avec la SNCM. Hein. Pareil qu'on a un bateau qui est ancré dans la rade nord.
Ouais, alors la SNCM, c'est fini, c'est daté, terminé l'histoire. Maintenant, donc, la société s'appelle MCM. Les marins SNCM ont fêté la fin d'année 2015 par 600 suppressions d'emplois. Et donc là, nouvelle année, nouvelle société, et on repart comme en 40, comme d'habitude. C'est-à-dire que dès les premiers jours d'existence de cette nouvelle société MCM, les marins SNCM sont MCM du coup, les marins sont en grève. Et pas seulement les marins MCM d'ailleurs, les marins aussi de la compagnie entre guillemets concurrente, mais en plus ou moins, enfin, qui est associée dans le cadre de la desserte de la Corse. Cette société, donc, c'est la Méridionale. Les marins sont aussi en grève et les marins de la MCM ont même été rejoints par les agents du port qui leur ont manifesté leur solidarité et même les agents de sécurité du port qui ont délaissé les guérites pour soutenir les marins. Les causes de cette grève, tout d'abord prévenir les nouveaux chefs de l'entreprise MCM que les marins n'entendent pas recommencer l'année avec de nouvelles suppressions de postes. Et aussi, ce qui a mis de l'huile sur le feu, c'est que l'un des candidats repreneurs de la SNCM, dont le dossier a été rejeté, a décidé de créer une société concurrente qui va donc concurrencer la MCM sur le fret. Et le premier bateau de cette compagnie s'est présenté, je crois, mardi devant le port autonome de Marseille. Et les marins lui ont bloqué l'accès. Et ça fait une semaine que ça dure. Il y a eu, je crois, mercredi, donc où en plus il y avait du Mistral. Il y a eu deux tentatives. Donc ce bateau s'appelle le Stena Carrière. Deux tentatives pour entrer dans le port. Et les marins bloquent l'entrée par les vedettes de survie, par des amarres passées en travers, etc. Et voilà, donc ça dure depuis une semaine maintenant, et c'est pas du tout réglé, puisque l'entreprise qui détient le Stena Carrière a porté plainte contre les marins MCM pour entrave à la liberté d'entreprendre, etc. Et donc le recours est tout juste arrivé en justice. Pour l'instant, la situation est bloquée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réaction des marins français de MCM, elle se fait contre une déréglementation en fait du travail maritime, puisque le bateau qui devait rentrer à Marseille, le Stena Carrière, c'est un bateau danois avec un pavillon, je ne sais pas exactement lequel, mais qui est un pavillon non pas de première catégorie comme le pavillon français, mais de catégorie inférieure, c'est-à-dire que les droits des marins qui travaillent à bord sont inférieurs à ceux des marins français. Et c'est le problème depuis des années avec la concurrence entre l'ex-SNCM et Corsica Ferry, c'est que ces deux sociétés se font concurrence, mais se font concurrence sur le dos des travailleurs, puisque La Corsica Ferry applique un droit du travail beaucoup plus laxiste que le droit du travail type français, ou en tout cas des pavillons de première classe, qui sont les pavillons qui respectent au mieux le droit du travail en France et en Europe. Donc à suivre sur le port autonome de Marseille, qui, pour changer, est bloqué.
Voilà, on va enchaîner sur une petite pause musicale avant de continuer sur les informations nationales. Nous reprenons avec les informations nationales. On va aller faire un petit tour du côté de Notre-Dame-des-Landes.
D'ailleurs, c'est important à noter, hein, c'est enfin une bonne nouvelle, ça nous arrive assez rarement, puisqu'il y a une manifestation aujourd'hui avec entre 7200 personnes selon la police et 20 000 selon les organisateurs, mais vu qu'on sent plus près des organisateurs que de la police, pour nous c'est 20 000. Voilà.
Okay, il y a donc 20 000 personnes. Il y a eu 20 000 personnes aujourd'hui à Nantes, et plus précisément en fait sur le périphérique, la rocade de Nantes. Plusieurs donc milliers de manifestants, accompagnés de centaines de tracteurs et de cyclistes, ont commencé à bloquer en milieu de journée le périphérique de Nantes, à l'appel de différentes organisations, de collectifs, d'individus hostiles au projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais pourquoi plus spécifiquement aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'ils manifestaient à Nantes? Petite parenthèse, il y a eu aussi des manifestations dans d'autres villes de France, et notamment à Marseille, mais aussi à Paris, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Albi, Rennes, Lille et Chambéry. Mais pourquoi cette manifestation aujourd'hui? Donc parce que le tribunal de grande instance, le 13 janvier, le tribunal de grande instance de Nantes, va peut-être émettre un arrêté d'expulsion contre des opposants, donc la presse dit historique, mais enfin, en tout cas des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il s'agit de 11 maisons, 4 fermes, et ça représente 400 hectares de terres agricoles sur quelques 1220 hectares que couvre le projet d'aéroport. Et donc AGO Vinci, donc AGO c'est Aéroport Grand Ouest et Vinci, c'est un conglomérat, ils se sont réunis, demande l'expulsion immédiate de ces habitants visés par une procédure et sous peine d'astreinte qui vont de 200 à 1000 euros par jour de retard. Donc petit rappel, le 10 décembre il y aurait dû y avoir ce procès là, mais le dossier a été retiré par souci, donc entre plein de guillemets, d'apaisement, parce que rappelez-vous, on était entre les deux tours des élections régionales et en pleine COP21, donc ça l'aurait pas très bien fait si on avait expulsé les habitants. Donc, mais AGO Vinci donc a reformulé cette demande d'expulsion début janvier. Le procès aura lieu, je le rappelle, le 13 janvier. Et mais Mathéo va pouvoir nous en parler. Il y a eu la manifestation continue en fait encore à l'heure actuelle.
Oui, bah, j'ai eu des interviews, comme on dit, des envoyés spéciaux de Radio Zinzine sur la manifestation au téléphone juste avant les informations. D'ailleurs, on n'a pas pu les avoir en direct pour des petits soucis techniques, tout simplement, mais peut-être qu'on arrivera à faire ça un jour. En attendant, les dernières nouvelles, c'est qu'il y avait toujours des gens sur le périph, environ 300 personnes, donc ce qui n'est pas énorme. La plupart des gens sont partis vers 16h, notamment toute une partie qui rejoint donc la zone occupée Voilà. Et donc au cours de la journée, il y a eu plusieurs interventions, il y avait une ambiance assez festive, et donc il y a des gens qui ont décidé de rester. Donc sur les 400 tracteurs, il y en a une cinquantaine qui sont restés, et il y a des chapiteaux qui ont été montés sur le périph' a priori. Et de fait, bah, les gens sont là, et puis là, ils disaient tout à l'heure dans les médias aussi... juste avant 19h, qu'il y a des manifestants qui avaient déclaré qu'il ne bougera pas tant que M. Hollande n'avait pas déclaré la fin du projet.
Et d'ailleurs, à propos de M. Hollande, pour tous ceux, toutes celles qui comptabilisent les nombres de promesses non tenues, ça fait partie d'une des promesses non tenues, puisque le gouvernement trahit les accords qu'il avait fait, ses promesses, disant qu'il n'y aurait pas de travaux, pas d'exploitation de l'aéroport, tant qu'il n'y aurait pas eu un épuisement des recours juridiques. Donc, preuve qu'une fois de plus, Hollande ne respecte pas ses paroles.
Ouais, quant à nos envoyés spéciaux, je pense qu'on aura des nouvelles demain aux informations ou après-demain, puisque je ne sais pas s'ils passeront la nuit, mais en tout cas, on leur souhaite un bon courage.
Voilà. Je vais donc continuer avec la Ligue des droits de l'homme qui a demandé au Conseil d'État l'annulation d'un décret et d'une circulaire relatif à l'état d'urgence. Ah, donc il s'agit notamment du décret du 14 novembre 2015 qui, comme on peut se le douter, a été rédigé et ratifié avec tout le recul nécessaire, hein, qui étend notamment les possibilités pour les autorités administratives d'ordonner les assignations à résidence, les perquisitions de jour comme de nuit. Hein, le tout étant renforcé par la loi, encore une fois bien méditée, du 21 novembre 2015, hein, qui permet du coup d'aller chercher toutes les informations informatiques, qu'elles soient stockées de façon pérenne chez soi ou de façon dématérialisée sur Internet. L'autre circulaire qui est visé par la LDH, c'est celle du 25 novembre 2015, qui organise l'application de l'état d'urgence et notamment les perquisitions administratives. Hein, donc la séance publique au Conseil d'État aura lieu le 13 janvier à 14h. On peut noter au passage que la Ligue des droits de l'homme en profite pour demander au Conseil d'État de transmettre trois questions prioritaires de constitutionnalité, hein, on vous en avait parlé fin décembre de la QPC, relative cette fois à la loi du 21 novembre 2015, hein, notamment sur la conformité des règles d'assignation à résidence, des perquisitions et des restrictions à la liberté de réunion au regard des graves atteintes portées à la liberté fondamentale, inaliénable et constitutionnellement garantie. Hein, en citant ce qui est dit. Mais on peut tout de même signaler que l'avocat de la Ligue des droits de l'homme a signalé qu'il ne s'agit pas de contester la légitimité de l'état d'urgence, mais de stigmatiser les dangers d'atteinte aux libertés fondamentales décidées en son nom, et ce, sans contrôle judiciaire. Hein. D'après la Ligue des droits de l'homme, le contrôle judiciaire et constitutionnel de l'état d'urgence est nécessaire pour un maintien du semblant de démocratie que nous avons. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Il me semble que Damien voulait réagir aussi là-dessus.
Ouais, alors en cette semaine là de commémoration... Tout le monde vous invite à lire et à acheter Charlie Hebdo qui vient d'être tiré à 1 million d'exemplaires. Moi, je vous incite vraiment aussi à soutenir la liberté de la presse et à acheter les journaux qui sont un peu moins vendus peut-être. Alors, on pensait au Ravi, on pensait à CQFD et aussi, surtout, pour moi, Ciné Hebdo, ou Ciné Mensuel plutôt. Ciné, faut rappeler qui c'est. Ciné, c'est un ancien de Charlie Hebdo. Sauf qu'il a été viré de Charlie Hebdo. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a considéré qu'il était antisémite suite à une chronique qu'il avait fait paraître dans le journal. Et donc il y a même eu une plainte de la LICRA contre lui. Sauf que après jugement, on a jugé que finalement il n'était pas antisémite, qu'il avait juste exercé sa liberté d'expression. C'est pas pour autant qu'il a été réintégré à l'intérieur de Charlie Hebdo. Et du coup, il a monté son propre hebdo qui s'appelait Ciné Hebdo, qui a pas suffisamment bien marché et qui du coup s'est transformé en un mensuel, donc le mensuel Ciné. Et ce mois-ci dans le mensuel de Ciné, le gros dossier, c'est un dossier donc sur un état à contrôler d'urgence. qui donc revient sur l'état d'urgence et ses dérives, donc en plusieurs actes, hein, donc il y a plein de choses, on revient sur les 3000 perquisitions qui ont eu lieu, sur le glissement sémantique qui a été fait, donc maintenant on peut être ciblé pour une perquisition, non plus seulement si on est un islamiste radical, mais aussi si on est un contestataire radical. Effectivement, il y a eu 26 personnes qui ont été assignées, par exemple, à résidence pour appartenance à une mouvance contestataire radicale. Donc là, on voit bien que ça n'a rien à voir avec l'islamisme radical. Il revient aussi sur un cas, par exemple, le cas de Nasser, un Marseillais de 40 ans, qui a dû pointer 6 fois... six fois par jour, 4 fois par jour, autant pour moi, dans un commissariat qui est situé à 6 km de chez lui. Donc, pour peu qu'il y aille à pied, je pense que 4 fois par jour, 12 bornes, ça doit bien lui prendre la journée, hein, d'aller pointer 4 fois. C'est pas mal. Et il s'est avéré que ce gars-là, en fait, c'est son employeur qui l'avait dénoncé comme islamiste parce que, pour un différend typique entre employeur et employé, quoi. Donc voilà, donc lisez Ciné, plein de choses intéressantes sur l'état d'urgence, et pas que, puisque dans ce numéro de Ciné, il y a une interview aussi d'un député, alors vous allez voir, c'est incroyable, un député qui a voté contre le budget, contre l'état d'urgence, contre la loi sur le renseignement, contre la réforme des régions. Quand on lui parle de la déchéance de nationalité, il dit que c'est absurde. Et surtout, il rappelle que c'était la proposition de loi de Le Pen lors de sa campagne en 2002. Et la déchéance de nationalité, c'était aussi un thème de campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Qu'est-ce qu'il rappelle d'autre encore ? Des tas de choses super intéressantes. Alors, ce député, c'est un député socialiste. Alors, on se demande encore ce qu'il fait au PS. Il s'appelle Pouria Amirshahi, c'est le député des Français de l'étranger, qui est d'origine iranienne, je crois. Et donc voilà, même au sein du PS, il y a effectivement des opposants à l'état d'urgence, et notamment, et encore plus à la nouvelle réforme constitutionnelle qui est en préparation. Et donc voilà, il fustige notamment le manque de séparation des pouvoirs, en rappelant que, par exemple, en Angleterre, Cameron a été obligé de demander l'accord du Parlement pour intervenir en Syrie. Et le Parlement a d'abord dit non. Donc, l'Angleterre n'est pas intervenue. Ensuite, après avec les nouveaux attentats qu'il y a eu en janvier dernier, la situation a évolué et les députés ont permis à Cameron d'intervenir en Syrie. Mais c'est quand même un débat parlementaire qui a existé outre-Manche, qui n'existe pas chez nous. Chez nous, il n'y a eu aucun débat. C'est directement l'exécutif, François Hollande, qui décide d'aller intervenir en Syrie. Et ensuite, au bout d'un temps, je crois que c'est un mois, il doit demander l'accord au Parlement. Et bon, dans le cas du Parlement français, ça n'a pas posé de problème, puisque ça a été l'unanimité, sauf 4, dont 2 étaient des députés socialistes qui avaient voté non par erreur. Voilà, donc... pour soutenir la liberté d'expression et la liberté de la presse, surtout, achetez et lisez Ciné, CQFD et Le Ravi.
Eh bien, maintenant, il me semble qu'on va continuer avec les migrants de la place République, ou plutôt les migrants qui ne sont plus place de la République.
Et loin des discours compassionnels des politiques sur les migrants, on va voir comment l'État et son administration agissent, mais au concret, contre ces migrants. En effet, le campement, il y avait un campement rue de la République.
Place de la République. Hautement symbolique.
Place de la République de migrants depuis quelques semaines, qui a été expulsé hier, en fait, à 6 heures du matin. Il a été encerclé par des policiers. Et ces migrants ont été redirigés vers des centres d'hébergement. Il faut savoir que la veille, la police s'était déjà positionnée sur la place de la République, autour du campement, empêchant notamment l'installation de nouvelles tentes. Donc il y avait eu préalablement 2 tentatives d'expulsion par les forces de police qui avaient dû se retirer face à la détermination des migrants, des collectifs de soutien. Donc petit point tiré d'un article de Mediapart, il faut savoir que les migrants n'ont jamais été consultés. Les responsables de la préfecture et de la mairie sur place ont refusé de leur indiquer les lieux où ils allaient être amenés et les groupes étaient séparés de manière tout à fait autoritaire. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est lire rapidement le communiqué écrit par les migrants eux-mêmes appelant à un rassemblement ce vendredi, donc avant d'être expulsés. Donc, je le lis. « Nous sommes des réfugiés, toujours à la rue, place de la République. Nous avons besoin de sacs de couchage, de bâches et de tentes, car il y a du vent, beaucoup de pluie. Nous avons besoin d'habits chauds et de chaussures. Depuis 2 semaines, nous sommes à République, mais le gouvernement nous ignore et ne fait rien pour garantir nos droits. Nous restons là jusqu'à ce que notre message soit entendu et que le gouvernement s'acquitte de son devoir de nous fournir des hébergements, une éducation et des papiers. Dimanche, il y a un concert prévu place de la République. Nous avons peur que la police nous repousse sans proposer de solution. Nous appelons le peuple français à venir nous soutenir car le gouvernement ne respecte pas le droit des réfugiés. » Donc il faut savoir que dimanche, en fait, il y a un hommage aux victimes des attaques contre Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Et il est facile de penser, et à juste droit, que les migrants et le campement ont été expulsés pour faire peau neuve et place à l'hommage. Voilà.
Et vous savez pourquoi ils ont besoin de sacs de couchage ? Parce que la police ne leur a pas laissé le temps de les récupérer. Et c'est relaté, je crois, justement par l'article de Mediapart ou peut-être par un autre article du Canard. Donc, la police n'a pas laissé le temps aux migrants de récupérer leur maigre richesse, c'est-à-dire pour la plupart un sac de couchage et peut-être, je sais pas, un oreiller, un sac à dos. Mais non, ils ont embarqué direct, ne récupérez pas vos affaires. Et surtout, les affaires ont été récupérées par les services de la mairie de Paris de la propreté, qui les ont récupérées directement et envoyées, je sais pas où, à détruire ou autre. Et le journaliste qui écrivait l'article a interrogé la mairie de Paris sur ce sujet. Et la déléguée à la propreté de la mairie de Paris a répondu que bah, « Pourquoi ça vous choque? On fait toujours comme ça. » Voilà.
Il y a une responsabilité d'État de nos politiques dans leur discours. Il y a une responsabilité aussi de l'administration. Ce que tu viens de dire fait écho à ce qui se passe dans le centre d'hébergement rue du Loiret, géré par l'association Aurore, et des migrants sont actuellement en grève de la faim et critiquent le comportement notamment du directeur, son comportement raciste. Ils critiquent des démarches administratives qui n'avancent pas, des maladies liées aux conditions de vie et au personnel qui ignorent les problèmes, et ils énumèrent dans leur communiqué un nombre impressionnant de problèmes, notamment le fait de se faire retirer la nourriture sur les plateaux repas alors qu'ils n'ont même pas commencé à manger, le fait que les personnels entrent dans les chambres sans prévenir et fouillent leurs affaires. Et donc ces migrants qui ont commencé une mobilisation ont été expulsés de ce centre et ont entamé une grève de la faim. Voilà.
Ben, bon courage.
Il me semble que Mathéo voulait introduire l'international avant qu'on fasse une petite pause musicale.
Alors juste avant d'introduire l'international, j'ai oublié de vous parler tout à l'heure à propos de l'état d'urgence d'une pétition qui a été lancée. C'est le site nousnecéderonspas.org, donc une pétition contre l'état d'urgence et un appel à s'organiser citoyennement pour ne pas se faire trop emmerder par l'état d'urgence, et à signaler aussi un très très bon article sur le site d'information Basta, un article de Rachel Kneabel qui concerne l'état d'urgence et qui compare l'état d'urgence français avec le Patriot Act américain qui avait été voté au lendemain des attentats du 11 septembre 2001.
Oui, du coup, je voulais introduire la prochaine chanson avec l'international, mais étant donné le temps qui rage, je sais pas comment on va s'organiser parce qu'on va pas avoir le temps de traiter les dossiers. En tout cas, sur l'Amérique latine, je peux quand même en dire 2 mots. Et donc, je voulais parler de pas mal de choses qui se passent en Amérique latine, donc je vais faire très vite. Et la première chose, je voulais parler du Paris-Dakar, hein, comme son nom ne l'indique pas, qui a lieu maintenant en Amérique du Sud, en Argentine notamment, et qui remonte la cordillère des Andes. Et donc cette course néocolonialiste, on peut l'appeler comme ça, hein, course de beauf motorisé, moi je me permets parce que je les déteste vraiment. Et comme tous les ans, ils font des morts. Alors là, la personne n'est pas encore morte, elle est entre la vie et la mort. Et il y a un gamin qui a été renversé, et donc 3 personnes blessées graves. Bah oui, c'est normal, hein, quand on va vite sur des routes qui sont pas faites pour, il y a des accidents, mais peut-être qu'il faudra tout simplement arrêter de le faire. Et donc je voulais parler d'Icar parce que ça introduisait la chanson de Renaud, 500 connards sur la ligne de départ, que je trouve assez marrante, mais je pense qu'on va pas avoir le temps de l'écouter en entier. Peut-être on peut en écouter un début, si je sais pas si on l'a en technique dans les...
Oui, on l'a. On l'a, bien sûr.
Voilà. Génial.
Et on en profite pour remercier Luc à la technique aussi.
Oui, c'est ça. Un travail de long, mais sans qui ça serait pas possible.
Un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Le rallye mécanique des Mad Max de bazar a recommencé son cirque au soleil de janvier. Pour traverser l'Afrique avec le pied dans le phare, dégueulasser les pistes et revenir bronzé. Ravi de cet obscène et pitoyable jeu, belle aventure humaine selon les journaux. 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Passe la caravane et les chiens n'en voient plus. Sous les roues des bécanes, y a du sang répandu. Les quelques sauvages qui ont voulu traverser les rues de leur village quand vous êtes passés. Comme des petits rommels, tout le cuir et l'acier, crachant vos décibels aux enfants décimés. 500 connards sur la ligne de départ, 500 guignols dans leur bagnole. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré.
Et voilà, on a coupé Renaud en plein milieu. Si vous voulez écouter cette chanson, vous pouvez l'écouter de chez vous. Donc on va pas avoir le temps de traiter le dossier sur l'Amérique latine, je le ferai la semaine prochaine. Notamment dossier qui a été traité par le Monde diplomatique. Amérique latine, pourquoi la panne? Et donc l'introduction dit défaite sanglante au Venezuela, virage à droite en Argentine, crise économique et politique au Brésil, manifestation de rue en Équateur, la gauche est à la peine en Amérique latine. Les manigances de Washington ne suffisent pas à expliquer un tel essoufflement, ça c'est sûr. De la Caraïbe à la Terre de Feu, les forces progressistes se trouvent une nouvelle fois confrontées à leurs vieux démons. Et du coup, ils essayent d'analyser l'échec du renouveau des politiques de gauche. Depuis une dizaine d'années, on a vu pas mal de gouvernements passer à gauche et ils tentent d'analyser. Alors il y a des choses très intéressantes, je trouve qu'ils posent des très bonnes questions. Comme souvent le Monde diplomatique, ils arrivent très bien à problématiser les choses. Après, je suis pas trop d'accord avec les réponses qu'ils apportent, mais je peux pas donner mon avis parce que là, j'ai pas le temps, sinon je devrais détailler un peu plus. Donc, on reviendra là-dessus. Ils parlent du Brésil, de l'Équateur, du Venezuela aussi, bien sûr, de Chavez, où il y a un article aussi dans CQFD qui fait pas mal polémique. Mais on prendra le temps d'en discuter un peu plus parce que je pense que ça vaut le coup. Donc, Damien, tu voulais terminer sur le dossier
sur l'armement. Cocorico.
Eh oui.
Cocorico.
Le savoir-faire français.
Ah ouais, là, la compétitivité française, c'est bon, on va avoir la croissance en 2016, moi je vous le dis.
Une bonne guerre à
cette décembre partie. 2015, la France est devenue le deuxième marchand d'armes au monde. Rendez-vous compte, il y a que les Yankees qui nous surpassent. On est vraiment des cracks, des champions dans le domaine. Et ça me pose vraiment question, moi, dans le contexte actuel. Et je suis très heureux d'être tombé sur le CQFD de ce mois-ci, puisque il y a un gros dossier sur l'armement, et pas seulement l'armement français, mais sur l'armement en général, ou plutôt le surarmement en général, c'est la tendance actuelle dans le monde. Je sais pas, puisqu'on est en période de commémoration, on va citer. Cabu qui disait, mais comment on peut croire que les armes qu'on construit, elles ne retomberont pas sur la gueule? Oui, la France donc construit énormément d'armes, et dans le dossier de CQFD, il y a donc pas mal de choses dans ce dossier. D'abord, un article sur la nouvelle diplomatie française qui est dans la logique va vers une diplomatie entreprise, donc où François Hollande et les ministres se font les VRP des Dassault, Thales et compagnie, donc pour vendre de l'armement autant que possible. Donc d'abord un article donc sur ça, sur cette diplomatie de la vente d'armes française. Il y a aussi un article super intéressant sur le développement des armes dites non létales et sur le fait que donc ces armes qui sont dites non létales, et c'est justement le fait qu'elles soient dites non létales qui justifie leur usage de plus en plus fréquent et surtout décomplexé. Et l'article rappelle les différents cas de donc ces armes qui étaient censées être des armes anti-bavures provoquent justement des bavures parce qu'elles sont utilisées sans complexe par les forces de l'ordre et que c'est justement des armes de violence policière avérées. Donc il y a un article sur ça dans ce dossier. Il y a aussi un article donc sur les interventions extérieures françaises vues comme des campagnes de pub pour les Rafales et autres matériels qu'on vend à l'étranger. Rappelons que la France est engagée sur mettons au moins 3 fronts. Pour faire simple, donc le front Chammal, donc l'opération en Irak et en Syrie, où on bombarde des villes, notamment au lendemain des attentats de janvier, on avait bombardé très fortement la ville de Raqqa. Il y a le dispositif Barkhane, qui à la base était la suite de l'intervention française au Mali. Mais méfiez-vous de Barkhane, c'est beaucoup plus large que le Mali. C'est toute la bande du Sahel, quasiment de la Centrafrique, où la France est très fortement engagée aussi, en passant par le Sahel jusqu'au Mali. Donc c'est en fait une bande énorme et qui correspond grosso modo à la zone des intérêts français concernant l'uranium dont on a besoin et dont on a besoin à bas coût et que donc on va défendre dans toute la zone sahélienne par notre présence qui devait être courte mais qui s'avère mettre les pieds dans le long terme. Là on est vraiment dans le long terme, sachant que l'opération Barkhane n'inclut pas seulement la France mais inclut 4000 soldats, des Français et des Africains, Maliens, Tchadiens et autres. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je n'en dirai pas plus. Toujours dans le dossier de CQFD sur l'armement, il y a aussi un article sur les États-Unis et sur la façon dont les surplus des Marines sont offerts aux polices américaines et donc la façon dont les polices américaines se militarisent. Alors notamment un cas assez drôle d'un shérif qui a réussi à récupérer un blindé avec une tourelle avec un canon, etc. et qui fait ses rondes dans ce blindé de l'armée américaine qui avait été utilisé en Afghanistan, en plein milieu des États-Unis. Il y a aussi, alors comment les louper, il y a aussi un article sur Israël, sur l'armement et notamment sur la surveillance israélienne qui est un exemple pour les autres nations du monde dont beaucoup s'en inspirent. Rappelons que les Israéliens sont experts en robots militarisés. Bah oui, tant qu'à faire, c'est plus simple d'envoyer des robots. Eux, ils risquent pas de se prendre des coups de couteau dans les territoires occupés. Et il y a encore un dernier article, comment les louper, cela aussi, sur la Turquie, qui mène depuis l'été dernier une offensive militaire contre une partie de sa propre population dans ce qu'on pourrait appeler le Kurdistan turc, notamment la ville de Diyarbakir. Et j'ai oublié d'en parler sur Israël, un petit point qui est rapporté par CQFD que je connaissais pas, que je trouve assez génial. Les Israéliens, eux, ont inventé un nouveau système. Vous connaissez déjà les canons à eau qui propulsent donc des jets puissants sur les manifestants pour les calmer. Alors on avait déjà essayé de mélanger l'eau avec des gaz lacrymogènes, mais là les Israéliens ils ont fait beaucoup mieux, ils ont inventé un système chimique qui permet de produire ce qu'ils appellent de l'eau sale. Et donc du coup quand vous prenez un jet d'eau pulvérisée par les camions de la police israélienne, en plus de ça vous êtes imprégné d'une odeur pestilentielle qui vous incommode et que vous ne pouvez pas supporter et qui en plus ne vous quitte pas pendant plusieurs jours. Donc ça c'est assez génial. Surtout les Palestiniens n'allaient plus manifester parce qu'en plus vous allez puer maintenant. Donc voilà, c'est vraiment un dossier qui fait réfléchir dans le contexte actuel, parce qu'il se pourrait bien que 2016 ça soit encore une année des armes. En tout cas c'est la direction qu'a pris la France en ce début d'année 2016, c'est la direction de la guerre. On vient de s'apercevoir qu'elle existe aussi sur notre sol, mais ça fait bien longtemps qu'on la mène sur plusieurs théâtres extérieurs et avec toutes les conséquences que ça engendre.
Et on reviendra sur ce dossier donc sur Radio Galère avec CQFD, avec Momo Brouque, Julien Toufik et peut-être Georges Broussaille qui viendra nous parler de ce dossier. Émission qui est retransmise sur Radio Zinzine le samedi midi. Voilà, et il y a aussi le Ravi qui sera là pour nous parler de son dernier numéro, si vous voulez en savoir plus. Sur ce, on a dépassé de 5 minutes, mais ça va, c'est correct.
Et pourtant, on a fait très vite sur la fin, on espère pas avoir été trop vite. En tout cas, on aura grand plaisir à vous retrouver prochainement.
Et n'oubliez pas d'ici là l'information essentielle de cette émission, hein, lisez la presse indépendante.